Silence.
Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Entre-deux-Mers 98.4 FM, www.redem.com. C'est l'heure de la conversation autour du cinéma avec Anne. Bonjour Anne.
Bonjour Damien, je sens à ta voix que tu es en pleine forme.
Ça va très bien, oui.
Bon, et puis on retrouve nos auditeurs, merci de nous recevoir chez vous, on est toujours tellement contents de vous retrouver. Voilà. Et de toute façon, là, bon, ben, là, on va avoir une petite semaine sympa, hein, ensoleillée quand même. Apparemment, c'est prévu jusqu'à la fin de la semaine, du soleil. Faut en profiter, c'est les derniers jours. Hein. Bon, oh non, attends, non, l'automne, c'est le 22, c'est ça, hein, 22
oui,
septembre.
Oui, il reste encore un peu de temps. Ouais, c'est le dernier jour du mois d'août. Hier, c'était le dernier jour du mois d'août et là, on est le 1er de septembre.
Et il fait beau, il fait beau.
Eh bien,
il
faut espérer avoir une bonne arrière-saison, comme on dit.
On va en profiter, hein, mes chéris, on va en profiter.
Mais bon, dans les salles obscures, il n'y a jamais l'influence du climat.
Non.
Et donc, on vient présenter les films aujourd'hui qui sortent au cinéma.
Oui.
Et aujourd'hui, tu voulais commencer par un premier film qui est un film d'animation
oui.
de type manga, film de Masaaki Yuasa,
oui.
qui s'appelle Ride Your Wave.
Oui, on va traduire « Attrape ta vague ». Ouais. Moi qui n'ai jamais fait de surf, wow, j'imagine. Oui, ben, tu l'as dit, Masaaki, oui. Yuasa, c'est un réalisateur scénariste japonais de 56 ans. C'est un maître, hein. C'est un maître dans ce domaine, quoi. Il est vraiment là-bas, il est très très reconnu, très aimé. Enfin bon, c'est quelqu'un qui fait de très très jolies choses. Il a 16 ans de carrière, 10 tournages à son actif. Et on lui doit par exemple Lou et l'île des sirènes qui était sorti en 2017. Et puis, et comme ce qu'il fait est quand même très joli, Netflix lui a acheté quand même énormément hein, de courts-métrages et de longs-métrages. Ouais, ça, eh oui. Donc on peut quand même, on peut se dire qu'il connaît bien ce qu'il fait, il connaît bien son affaire. Donc Ride Your Wave, ça a été créé, en fait il l'a créé, enfin il l'a réalisé en 2019. Hein. Ben, le temps que ça nous arrive, eh bien oui, il y a eu pas mal de retard pour tout le monde. Alors c'est de l'animation, il y a de la romance, c'est du fantastique. Bon ben, c'est japonais évidemment. Il y a 3 nominations au Festival du film d'animation d'Annecy en 2019. Ça dure 1h35. Alors, on va parler d'une jeune fille qui s'appelle Inako. Elle est passionnée de surf. Elle déménage dans une ville balnéaire. Lors d'un incendie, elle est sauvée par un pompier nommé Minato. De cet incident va naître une incroyable fusion entre deux êtres que tout oppose. Mais Minato, jeune débutant surfeur, se retrouve un jour englouti par la mer. Alors que tout le monde tente de surmonter sa peine, Inako s'accroche, elle s'accroche à l'esprit de son ami qui rejaillit dans sa vie sous forme d'eau. Commence alors un nouveau chapitre de leur romance. Alors, le réalisateur, en fait, il souhaitait lui raconter une histoire d'amour simple, hein, destinée aux jeunes adultes d'ailleurs. Et pour chacun d'eux, l'autre est son héros, ils s'entraident. Voilà. J'ai toujours pensé, dit-il, que des héros existent dans notre entourage, tout près. Donc, on peut dire que c'est un film qui nous donne du courage, voilà. Voilà. On peut le dire comme ça, quand même. Hein. Alors, le réalisateur, lui, Masaaki Yuasa, a été primé de nombreuses fois à travers le monde. Hein. Il est vraiment très, très, très connu. Alors, c'est titré « Plongé dans l'émerveillement », une éblouissante fable onirique. « L'amour est plus fort que tout ». Et il y a une bande-annonce qui est très jolie. Je ne sais pas si tu l'as.
Et on va l'écouter de suite.
Merci.
Vous m'avez tellement manqué. Mes vagues, chérie.
Cette fille, c'est mon héroïne. T'as l'air content, dis donc. Je vais aller surfer.
Ton reflet dans l'océan. Et si vos pieds me donnent envie d'aller. Je veux toujours sentir ton contact.
Je serai toujours là pour toi, quoi qu'il arrive.
Et tu seras là pour moi pendant combien de temps?
Jusqu'à ce que tu réussisses à surfer ta propre vague.
Minato? Minato! Ton reflet dans l'océan. Minato!
Je t'ai promis que je serai toujours là si tu as besoin de moi.
C'est à chaque fois que je chante. Tu apparais dans l'eau à chaque fois que je chante cette chanson?
Plus jamais je pourrais te tenir la main, t'enlacer ou t'embrasser.
Ça me fait mal de te le dire, mais Minato est mort.
Il est en train de disparaître.
Prends la vague.
Minato.
Ride Your Wave Up, donc un manga
très joli, très
romantique
très joli.
Et tout à voir pour les amateurs du genre.
Ah oui, tout à fait, mais il y en a beaucoup. Mais c'est un petit coup de cœur quand même, hein, parce que c'est joli, l'histoire est belle, fantastique. Et oui.
Et maintenant, on continue avec un film français qui vient de sortir et qui s'appelle Un triomphe.
Oula.
Film d'Emmanuel Courcol.
Oui, Un triomphe. Oui.
Alors apparemment, ça n'a pas été facile de le réaliser, ce film.
Non, 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 du tout, du tout. Emmanuel Courcol, on le connaît plutôt comme acteur. Hein. On le connaît. Si on a l'habitude d'aller au cinéma, on le connaît. Quoi. Cet acteur, maintenant, il est réalisateur, il est scénariste, acteur français. Il a 63 ans, 29 ans de carrière, 16 tournages à son actif. Il a 5 nominations pour son film dans tous les festivals. Ah, mais on lui doit aussi un film qui était très joli, qui est sorti en 2009, qui s'appelait Welcome.
Ah oui.
Welcome avec Vincent Lindon, qui était quand même, et en 2010, qui a eu 2 nominations, et en 2017, Cessez le feu avec Romain Duris, qui a eu également 2 nominations. J'ai l'impression qu'il ne peut pas sortir un film, Emmanuel Courcol, sans avoir une nomination. Ben oui, il a pris l'habitude. Donc là, Un triomphe, il y a un prix et 3 nominations au Festival de Cannes 2020, donc dans la catégorie label, les comédies. Et ben oui, tout est pratiquement en 2020. Ça fait un peu bizarre hein, quand on donne les dates comme ça, mais bon, ça dure 1h46. Donc, il a eu également un prix au Festival du film francophone d'Angoulême, son film, 2020 aussi. Il a eu le prix Valois du meilleur acteur pour... Enfin, ils sont deux à avoir eu le Valois du meilleur acteur dans le film. Je comptais nommer les acteurs. Et là, on va le dire, c'est Pierre Lottin et Sofiane Kames. Qui ont eu donc le Valois du meilleur acteur pour ce film Un triomphe. C'est l'histoire d'un acteur qui est en galère, bah oui, comme beaucoup d'acteurs malheureusement, et qui accepte pour boucler ses fins de mois d'animer un atelier théâtre en prison. Surpris par les talents des comédiens, des détenus, il se met en tête de monter avec eux une pièce sur la scène d'un vrai théâtre. Commence alors une formidable aventure humaine. Et c'est inspiré d'une histoire vraie. C'est encore plus savoureux. Donc, dans le rôle du comédien en galère, on a Kadmerad. Ah, ben, on est content de le retrouver. Et puis, on a... Alors après, dans le rôle des comédiens, des détenus qui vont devenir des comédiens, on a David Ayala, on a Sofiane Kames, je viens donc de le nommer pour ce prix, ce Valois qu'il a eu. Pierre Lottin également, hein, donc les deux lauréats. On a Laurent Stocker, qui est un acteur assez extraordinaire.
De la comédie française.
Ah oui, il est formidable, cet acteur. Quand vous le verrez, si le nom vous échappe un peu, vous allez le reconnaître, c'est sûr. Vous l'avez déjà vu. Là, il joue le directeur de théâtre. Il va être le directeur du théâtre. Et puis on a Lamine Sissoko aussi dans les détenus comédiens. On a Vabinle Nabier aussi, Saïd Benchnafa. On a aussi, alors on a un acteur russe aussi, mais qu'on connaît, on l'a vu dans pas mal de films. En fait, il fait quasiment sa carrière en France. Il s'appelle Alexandre Medvedev. Mais c'est pareil, quand on le voit, on dit ah ben oui, mais je le connais, je l'ai déjà vu. Type très beau, très grand comme ça. C'est quelqu'un qui fait ça, une belle carrière chez nous. Et puis on a Marina Hans, la ravissante Marina Hans, qui joue la directrice de la prison. Alors elle est taxée sur la réinsertion, hein, c'est son truc. Donc elle est très bien là-dedans d'ailleurs. C'est tout à fait la directrice de prison qu'on aimerait rencontrer quand même. Donc là, ça s'inspire, donc je l'ai dit, hein, d'une histoire vraie. C'était celle de Jan Johnson, qui est un comédien suédois, qui en 1985 a monté la pièce En attendant Godot. Alors là, c'est pas n'importe quoi quand même, hein, avec les détenus d'une prison de haute sécurité. Alors En attendant Godot, juste pour rappeler quand même, hein, c'est Samuel Beckett. Hein, c'est une pièce de théâtre en deux actes d'ailleurs de Samuel Beckett, qui a été publiée en 1952. Samuel Beckett, pour rafraîchir un peu la mémoire, 1906-1989, hein, il est décédé en 89. C'était un écrivain, un poète, un dramaturge irlandais d'expression principalement française et anglaise. C'est quand même le prix Nobel de littérature de 1969, Samuel Beckett. Donc, en attendant Godot, là, c'était un sacré travail qu'il entamait avec ses détenus de haute sécurité, de cette prison de haute sécurité. Et en fait, c'est le producteur en fait d'Emmanuel Courcol, qui s'appelle Marc Bordure, je crois, qui a parlé de cette histoire justement au réalisateur. D'ailleurs, il nous dit, Emmanuel Courcol, il fallait tout réinventer parce que le milieu carcéral suédois des années 80 était très éloigné des prisons françaises d'aujourd'hui. En tant que simple scénariste, je bloquais un peu. Et après avoir pas mal tourné autour du pot, le projet est un peu tombé en sommeil. Alors le producteur Marc là lui a seulement dit « Prends ton temps, je le garde pour toi ». Alors il est revenu, je suis revenu à la charge, nous dit-il, auprès de lui en 2016. J'avais eu le temps de réfléchir et je lui ai proposé de repartir sur le projet en restant beaucoup plus fidèle aux faits divers dont il s'inspirait. Donc le film, s'il est très fidèle à la véritable histoire, c'est quand même intéressant. C'est encore plus intéressant, justement, de savoir que c'est vraiment arrivé. Voilà. Et donc, Emmanuel Courcol a entrepris quand même, pour représenter l'univers carcéral, hein, de manière quand même crédible, il a entrepris un long travail d'observation via des intervenants en prison. Voilà. Par exemple, il nous dit, comme de mon passé de comédien, j'ai gardé pour pas mal de relations dans le milieu de la scène, j'ai pu très vite entrer en contact avec des intervenants théâtre en prison et recueillir un peu de leur expérience. Là, c'était bien de faire comme ça, justement, pour que tout paraisse crédible, parce que c'est quand même pas évident de faire un film avec des comédiens qui sont en prison et de monter une pièce comme ça, c'est quand même pas évident. Alors le film a été tourné au centre pénitentiaire de Meaux-Choconin. Alors Meaux-Choconin, moi je connaissais pas bien, et ça se trouve en Seine-et-Marne, en région Île-de-France. Hein. C'est le 77, je crois, le code. C'est 77, ça peut donner une idée comme ça. Donc ça se trouve à peu près, le centre carcéral se trouve à 5 km de Meaux, au nord-ouest de Meaux, de la ville de Meaux. Voilà, c'était pour situer quand même. Donc là, Emmanuel Courcol, il connaissait parce qu'il avait déjà réalisé un documentaire là, justement, qui s'appelait Douze cordes, qui est sorti en 2019, qui était centré justement ce documentaire sur un spectacle de 8 détenus imaginé par Irène Muscari, qui est une coordinatrice culturelle du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Pas mal. Alors il dit, il me connaissait, j'avais des alliés dans la place, quoi. Et voilà, dont justement Irène Muscari qui nous a beaucoup aidé à organiser ce tournage où tout devait être minuté, absolument minuté, et prévu au millimètre. Voilà. Alors, il faut dire que accueillir pendant 8 jours toute une équipe de cinéma, acteurs, techniciens, figurants et tout ça, quoi, dans une prison de 900 détenus en activité, bah, c'est un vrai casse-tête. C'est ce qu'il nous dit de toute façon. Et c'est la première fois que l'administration pénitentiaire accordait une telle possibilité à une production. Nous avons été très bien reçus par la direction et les personnels qui se sont montrés très coopératifs. Kad Merad a même été acclamé par les détenus. Ça devait être assez émouvant, tout compte fait, ça, je pense quand même. Effectivement. Voilà. Donc, c'est sûr que là, c'est un... Bah, moi, c'est aussi un petit coup de cœur quand même, hein, ce film, j'avoue. Alors, Un Triomphe a fait partie de la sélection officielle du Festival de Cannes 2020. On l'avait dit déjà au début. Hein. Voilà. Donc, c'est quand même... Ah oui, alors, la présence de Sofiane Kames, là, qui a eu le Valois du meilleur acteur, il est dans la peau là, d'un personnage qui s'appelle Kamel et qui est le caïd de la prison et qui est habitué justement à jouer, cet acteur est habitué à jouer des délinquants. Voilà, par exemple, on l'a vu, mais on avait parlé de Chouf. On avait parlé à l'antenne de Radio Entre-deux-Mers du film Chouf, dans lequel effectivement il joue un voyou, un détenu, un voyou. Et puis il y avait Le Convoi aussi, il est dans Le Convoi, il est dans Le Monde est à toi. Il a toujours ce genre de rôle quand même, voilà. Et Emmanuel Courcol, le réalisateur, nous dit « J'avais imaginé un grand mec impressionnant et face à lui, j'ai vu son intelligence de jeu. Je me suis dit que c'était lui, voilà, que c'était lui qu'il fallait dans le rôle. » Il s'imaginait un grand mec un peu costaud et pas grand-chose dans la tête. Eh ben non, c'était pas ça du tout. Et en fait, un caïd, nous dit Emmanuel Courcol, c'est une intelligence supérieure qui a un sens de la manipulation terrible. Et c'est pas forcément une carrure, quoi, en fait. Hein. Voilà, donc c'est... Sofiane, il nous dit que l'acteur a fait le conservatoire, quand même, hein, et qu'il a une vraie culture. Voilà, qu'on le confonde pas, quand même, un petit voyou sans envergure, éventuellement. Donc, il nous rassure. Voilà. Et ah oui, Pierre Lottin, au fait, l'autre qui a eu le Valois du meilleur acteur. Alors lui, il est dans Les Tuches. C'est le fils, Pierre Lottin, dans Les Tuches.
D'accord.
Eh ben oui, là, c'est le fils de Jean-Paul Rouve dans Les Tuches. Alors si, mes chéris, je ne sais pas si vous avez vu Les Tuches. Ouais. Bon, ben, il y a un fils, effectivement, le fils du héros. Eh ben c'est lui, c'est Pierre Lottin.
C'est vrai. Alors, c'est lequel des fils? Le plus jeune ou le plus grand?
Non, c'est le plus grand, le plus cucu. C'est il est cucu praline, comme on dit gentiment. Et il joue ça très très bien. Ah oui, il le fait très bien, ça. Voilà. Mais on le connaît beaucoup, enfin les gens qui sont allés voir Tuche, c'est une saga quand même très populaire, donc qui a été très très vue quand même. Hein. Il y a eu beaucoup d'entrées. Donc forcément, s'ils vont voir Un Triomphe, ils vont le reconnaître. Hein. Physiquement, ils vont le reconnaître. Voilà, ma foi.
Et on écoute la bande-annonce.
Oh oui, merci.
Un triomphe.
Un triomphe.
Mais vous avez jamais travaillé avec des détenus?
Si, un petit peu. Mais c'était des jeunes en difficulté qui avaient fait des conneries.
Ah d'accord. C'est pas pareil. Hein.
Je t'ai dit que je pouvais. Alors là, je m'appelle Étienne, je suis comédien.
On va faire des sketchs, nous, monsieur.
Bah ouais, nous, on va faire du stand-up.
Les sketchs, c'est pas trop mon truc. Moi, je fais du théâtre.
Mais c'est bizarre, on vous a jamais vu.
T'es con, quoi. Il serait une star, il serait pas avec nous. Tu réfléchis un peu.
Grand auteur de théâtre du XXe siècle. De quoi elle parle, la pièce? De deux mecs dans la merde qui espèrent des lendemains meilleurs. Ça vous parle pas, ça?
Je veux pas qu'ils se retrouvent en situation d'échec.
Je suis là pour les tirer vers le haut.
Oh, vas-y, c'est relou ton truc.
Au boulot.
Ça veut dire 6 mois de répétition. Mais comment vous voulez que je justifie ça, moi?
Ils vont représenter tous les autres. Ils vont devenir des exemples, des ambassadeurs.
Comment veux-tu qu'ils y arrivent? C'est pas des acteurs.
Donne-moi 6 mois, je vais le faire.
Ça divine, aphasie, putain de merde, je sais même pas ce que ça veut dire, aphasie.
C'est quoi ce bordel, là?
C'est une répétition, là.
Vous êtes pas dans un théâtre, ici. Vous êtes dans une prison, avec des délinquants, des criminels.
Ah, tu parles pas comme ça, moi.
Attends, je te parle comme je veux, je suis metteur en scène, ici. Moi, je veux que les spectateurs, ils oublient d'où vous venez.
Je crois qu'on oublie d'où on vient, non?
Le public est saisi du grand théâtre.
Je crois que vous allez faire une tournée. C'est pas pour eux que t'as fait ça, c'est pour toi.
Et alors? J'ai pas le droit d'exister, moi?
Allez, c'est passé ça, quand même.
Étonnez-nous. Ça, vous l'emporterez avec vous. Personne n'aura à vous le piquer, ça.
T'es fâché?
Ah non, je suis pas fâché, non.
Non, mais je joue, là, c'est mon texte.
Ah bah, c'était bien, là. C'était juste, non?
Excellent. Excellent.
Voilà donc un triomphe.
Oui, oui. Je pense que c'est... on peut en même temps se détendre. Et puis, il y a des moments émouvants aussi, quand même. Hein. Il y a pas... Voilà, c'est une comédie avec des moments... Bah, voilà, de... un petit peu... Comment on peut dire ça? Bah, un peu de douceur.
Émouvant.
Oui, voilà.
Et maintenant, on va continuer avec une histoire d'amour et de désir. Alors, c'est pas une annonce, c'est le nom du film de Leïla Bouzid.
Oui, oui, on ne passe pas une annonce, pas tout de suite en tout cas. Non, non, une histoire d'amour et de désir. C'est un joli titre, ça. C'est un drame romancé, hein, c'est français. C'est de Leïla Bouzid, oui, tu l'as dit, réalisatrice, scénariste, script aussi. Elle est franco-tunisienne. Elle a 37 ans, un talent fou d'ailleurs. Hein. Elle est toute jeune. 13 ans de carrière, 7 tournages à son actif. Elle a déjà quand même 3 prix et 5 nominations dans sa carrière. Alors là, pour une histoire d'amour et de désir, elle a 2 nominations. En 2021 à la Semaine internationale de la critique, et puis elle a également donc elle a une nomination là à la Semaine la critique et une nomination au Festival du film francophone d'Angoulême. Et bah oui, c'est pareil, elle, à chaque fois qu'elle sort un film, elle a quelque chose, quoi. Elle a soit une nomination, soit un prix. Moi, voilà, à 37 ans, c'est une surdouée du cinéma, Leïla Bouzid. Donc là, ça dure 1h42, hein, je le dis tout de suite, le film. Alors, ce sera d'ailleurs son film, qui est présenté donc, à la Semaine internationale de la critique, sera également le film de clôture de la section 2021. Donc c'est quoi l'histoire? Allons-y, c'est l'histoire d'Ahmed, 18 ans, il est français, d'origine algérienne. Il a grandi en banlieue parisienne. Sur les bancs de la faculté, il rencontre Farah, une jeune Tunisienne pleine d'énergie, fraîchement débarquée de Tunis, tout en découvrant un corpus de littérature arabe sensuelle et érotique dont il ne soupçonnait pas l'existence. Ahmed tombe très amoureux de Farah, et bien que littéralement submergé par le désir, il va tenter d'y résister. Donc c'est oui et oui. Donc c'est quand même. Alors on a dans le rôle d'Ahmed, on a Sami Outalbali, hein, qui est il est super là dans son rôle. On a alors dans le rôle de Farah, on a Beida Belhadjamor, et puis sinon dans le rôle principal, on a Aurélien Petit, on a Dionkeba Takou. Ils tiennent leur rôle vraiment d'une façon. C'est un beau casting, voilà, d'une très belle façon. Voilà, je peux dire que c'est un très beau casting. On ne les connaît pas énormément, mais ils s'en sortent très, très bien. Ça, là. Alors, Leïla Bouzid, elle avait eu 2 prix d'ailleurs en 2016 pour À peine j'ouvre les yeux. C'est le titre du film qui avait Baya Medafar, qui avait été nommée révélation féminine dans ce film à la Mostra de Venise. Il y avait eu le prix du public. Elle avait eu le label Europa Cinéma du meilleur film européen aussi là en 2016. Bref, elle fait du bon travail. On peut la suivre, on peut aller voir son cinéma. Alors, avec une histoire d'amour et de désir, elle souhaitait filmer un jeune homme qui ne parvient pas à vivre pleinement son sentiment amoureux. Elle nous dit un jeune homme timide, littéralement submergé par le désir, mais qui résiste. Un jeune homme de culture arabe, parce que c'est la culture que je connais le mieux, ajoute-t-elle, qui doute, qui a des fragilités et qui n'assume pas ses élans de vie. Il y a un point de vue assez rare au cinéma dans ce film qui montre la première expérience sexuelle d'un garçon, un sujet qui est peu traité au cinéma, contrairement à celle des jeunes filles, bien sûr. Alors là où l'image, nous dit-elle, d'une virilité exacerbée domine, j'ai voulu redonner une vraie place à la fragilité masculine et accorder une part signifiante à sa sexualité. le regard masculin sur le corps féminin, c'est l'histoire de l'art en entier. Mais le regard féminin posé sur le corps masculin manque. Avec ce film, j'avais envie d'en proposer un et qui soit un hymne au désir physique, un appel à aimer. Joli, joli. Ça donne quand même envie d'aller le voir, ce film. Ce qu'elle nous dit, finalement. Alors, les trajectoires d'Ahmed et de Farah sont opposées. Hein. Donc, bien qu'ils soient tous deux originaires du Maghreb, alors le premier, Ahmed, ne connaît rien de son pays d'origine, ni la langue, ni la culture. Ses parents ont fui les années noires et ne sont jamais retournés en Algérie. Tandis que pour elle, pour Farah, elle entretient, elle, un rapport direct à sa culture tunisienne. Et si elle vient en France, c'est parce qu'elle en a fait le choix, dans le but de poursuivre ses études supérieures. Donc la réalisatrice, je mange mes mots, nous dit « Je voulais redonner de la pluralité et de la diversité au sein de ceux qui composent la communauté maghrébine en France. » Farah est différente d'Ahmed, qui est lui-même différent de son ami Karim ou de son propre père. Il faut aller voir le film pour voir quelles sont ces différences, pour essayer de comprendre justement. Eh oui. Alors il y a des scènes, les scènes de faculté en tout cas, ont été tournées à Malesherbes, qui est une annexe de la Sorbonne, hein, où se trouvent les étudiants en lettres modernes de Paris. D'ailleurs, Leïla Bouzid y a elle-même étudié. Elle a étudié à cet endroit-là. Et bien qu'elle n'ait pas suivi de cours de littérature arabe, en tout cas c'est ce qu'elle nous dit, elle s'est inspirée de son professeur de stylistique qui s'appelait Monsieur Molinier, qui a marqué des générations d'étudiants, dit-elle. Je voulais que Madame Morel soit à la fois fascinante par son érudition et provocante par l'ambiguïté qu'elle place dans le choix de chaque mot qu'elle utilise. Madame Morel est dans le film, bien sûr, c'est un personnage du film. Voilà ce qu'on peut dire quand même sur ce joli film, une histoire d'amour et de désir.
La bande-annonce.
Merci.
Tout de suite.
Poésie arabe. Courtisane, amoureuse. Du désir et encore du désir.
La fac, ça va, ça dit quoi ?
C'est pas facile, mais ça va. Avec des filles, par contre.
Ah ouais ?
Sophistiquée, élégante. Tu viens d'où ?
De Tunis.
Tu parles hyper bien français ?
Toi, tu parles arabe ?
C'est un manuel érotique arabe. Pour le pénis, on peut dire Ad-Dakik, le frappeur, Al-Hakik, le frotteur.
C'est pas de la littérature, ça.
Prendre le temps de savourer l'érotisme exacerbé de certains de ces textes.
Ça ne vous convient plus, le camp de Madame Morel ?
Je vais réfléchir encore un peu.
Tu peux me faire visiter, toi ?
Visiter quoi ?
Ben, visiter Paris.
Le meilleur baiser est celui déposé sur les lèvres humides. Je suis obligé d'aller aussi vite.
Si c'est nouveau pour toi, on peut prendre de temps. Hein.
Qu'est-ce que tu racontes, là ? Il n'y a pas de place pour les gens comme moi ici, de toute façon.
Votre attitude conforte tous ceux qui souhaitent votre échec.
Toujours apprendre, c'est pas trop tard. Hein. J'étais déjà petit, je te parlais en arabe et tu comprenais bien. Farah.
Une histoire d'amour et de désir de Leïla Bouzid sur oui. Radio Entre deux Mers, c'est la conversation autour du cinéma. Et on va continuer
oui.
avec le film qui s'appelle « Tout nous sourit » de Mélissa Drijard.
Oh, quel beau titre aussi, « Tout nous sourit ». Eh oui, c'est la comédie de Mélissa Drijard, qui est une réalisatrice, scénariste, actrice française. Elle a 39 ans, guère plus âgée que Leïla Bouzid, hein, décidément, là. Oh là, on est dans les très jeunes réalisateurs. Elle a 10 ans de carrière, ça veut dire qu'elle a commencé bébé. Et elle a 7 tournages à son actif. Alors, en 2014, elle a réalisé « Jamais le premier soir ». Mais il est assez connu, ce film, avec Alexandra Lamy. Il y avait Mélanie Doutet, je crois aussi, Julie Ferrier, Jean-Paul Roux. Voilà. Et elle nous prépare d'ailleurs aussi, je l'ai noté, ça quand même, pour 2022, nous aurons « Hawaï », qui est une comédie. Il y aura Bérénice Bejo, Élodie Bouchèze, Pierre Deladonchamp. Alors, on en parlera de toute façon sur l'antenne de Radio Entre Deux Mers. À ce moment-là, dès que ça va sortir, pourvu que les films puissent sortir tranquillement en 2022, ça voudrait dire que tout va mieux, quand même. Ce serait assez sympathique. Alors là, oh, son film a eu 3 prix et 6 nominations au Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez 2020, prix spécial du jury pour les prix. Hein. Prix d'interprétation féminine pour Elsa Silberstein, qui est dans le film, bien sûr, et masculine pour Stéphane de Groot. Alors, c'est quoi cette histoire ? Tout sourit à Audrey et Jérôme. Ils ont 3 merveilleux enfants et leur métier les passionne. Le temps d'un week-end, ils partent chacun de leur côté, avec leurs amants respectifs. Oh, je le dis à voix basse. Mais ce n'est pas la peine parce que ça va être découvert. Le temps d'un week-end, eh oui. Sauf qu'ils ont, eu la même idée, aller dans leur maison de campagne. Quand ils se retrouvent nez à nez, c'est l'explosion. Arrivent alors les parents d'Audrey, et puis leurs enfants, et enfin sa sœur. Le quatuor n'a pas d'autre choix que jouer la comédie pour sauver les apparences. Mais très vite, le vernis et les nerfs craquent. Quelle situation, tu m'étonnes, ça dure 1h41. Alors là, on a donc Elsa Silberstein, puisqu'elle a eu le prix d'interprétation, on l'a nommée, Stéphane de Groot, alors c'est Audrey et Jérôme, bien sûr, c'est le couple. Alors on a, le père est joué par Guy Marchand. Oui, on est content de revoir un peu Guy Marchand. Et puis la mère, c'est Anne Benoît, excellente comédienne. Ils sont tous excellents de toute façon. On a Émilie Caen, on a Caridja Touré, on a Giovanni Cirfiera. Alors Giovanni Cirfiera, c'est un acteur italien qui s'en sort très très bien, qui fait une petite carrière aussi en France, lui, entre la France et l'Italie en fait. Alors c'est quoi ça ? C'est un week-end en amoureux, mais pas ensemble. On peut dire ça comme ça. C'est quand même... c'est assez... Pourquoi ce titre ? Pourquoi tout nous sourit ? Alors, elle nous dit, la réalisatrice, on oublie de voir à quel point c'est extraordinaire de mener de front une vie de couple, une vie de famille, une vie de parents, une vie professionnelle. Même si le résultat est bancal, même si ce n'est pas simple tous les jours, c'est une réussite. Et comme on oublie de le voir, on oublie de le chérir, de le protéger, de l'apprécier. C'est ce qui arrive à Jérôme et Audrey. Ils ont oublié leur chance et par un coup du sort, elles se vengent. C'est ça le, quand même. Hein. Alors, en fait, le film évoque, sous une forme moderne, hein, la France et les figures de vaudeville. C'est un peu ça dans les vaudevilles, où les portes claquent là, tout le temps. Il y a les amants, il y a les maris, il y a les femmes, et ça claque dans tous les coins. Là. Paf, poum, c'est un peu ça, mais en moderne, effectivement. Mais ce qu'il y a, c'est que, elle nous dit, la réalisatrice, le film suit un mouvement quand même. Là. C'est-à-dire qu'il y a la scène d'ouverture, qui se déroule dans une ambiance très quotidienne. Et puis, il y a aussi un virage vers cette maison, où on se trouve dans le cadre d'un vrai vaudeville. C'est là, c'est quand on arrive dans cette maison, qu'on arrive dans un vaudeville, effectivement. Et enfin, après, on repart vers la vie et on sort de la maison. Il y a des différences avec le vaudeville, justement. Le vaudeville, ça se passe toujours au même endroit. Hein. C'est souvent, d'ailleurs, ça peut être un hôtel ou un appartement où les amants se retrouvent, ils se retrouvent nez à nez les uns aux autres et les portes claquent, ça, c'est un truc très vaudeville. Voilà, sauf que là, il y a un début très ordinaire et une fin quand même qui repart vers la vie, leur vie, la vie un peu normale, quoi. Joli film, tout nous sourit.
On écoute la bande-annonce ?
Oui, merci.
Allez.
Maman, tu vas te mettre en retard.
Ah oui, faut que j'aille, non ?
Oh, bon, bon.
Ah. T'embrasses pas papa ?
Ah si, je suis folle.
Ça va ?
Ça s'embrasse pas, on sait jamais.
La maison de campagne, ça appartient à mes beaux-parents, on vient tous un peu quand on veut.
Dans quelle pièce t'as jamais fait l'amour avec ta femme ?
So far away.
Qu'est-ce que c'est ?
Ah ! Jérôme ! Jérôme ! C'est pas du tout ce que tu crois ! C'est quelque chose, mon amour. Mais c'est qui, elle ? Oh, c'est une blague ?
C'est surréaliste.
Excusez-moi, je voulais juste vous
dire... Ta gueule ! T'es fou le camp, toi !
Qu'est-ce que Qu'est-ce que c'est? Ah putain, papa.
Ah, c'est vous?
Je t'en supplie, on leur dit rien.
Oh, bah, vous avez des amis?
Oui.
Vous, Alberto, vous faites quoi dans la vie?
Je suis restaurateur.
C'est le pizzaiolo du coin de la rue. Vous voyez le truc de bon goût avec des gondoles et des tours de pizza à l'intérieur?
C'est quoi ça?
Qu'est-ce que vous faites là?
Personne ne bouge!
Mais vous êtes défoncé en fait. Vous avez pris quoi?
Oh! Papa! Elle est où ma sœur? Moi je pense à vous et aux enfants. Ouais. Ah, je me dis que le bonheur est possible.
Non mais vous êtes tous devenus fous ce matin.
Vous avoir ici tous, c'est formidable.
Je vendrai un rein pour avoir votre vie. Comment on en est arrivé là?
On en est arrivé là parce que le temps a passé, c'est tout. On a oublié qu'on avait tout.
Eh ben on n'a plus rien, c'est ça. Alors tu vendrais toujours un rein pour avoir ma vie? Encore plus depuis que je sais que tu t'es tapé Alberto.
Tout nous sourire.
Ça déménage. Hein.
Drija.
Ça déménage. J'aime bien la phrase. Ce n'est pas du tout ce que tu crois. Ça, c'est la phrase classique.
Type.
Voilà, quand les époux avec leurs amants respectifs se retrouvent, comme ça, par hasard, c'est la grosse phrase, ça. Ah, ce n'est pas du tout ce que tu crois. Bah non, bien sûr. C'est une phrase très utilisée dans ce genre d'histoire.
Et nous allons maintenant continuer dans un autre genre,
oui,
avec un film d'Amos Gitaï qui vient de sortir. Ça s'appelle Laïla et Naïfa.
Oui, ce qui veut dire d'ailleurs une nuit à Haïfa, si on traduit un peu. Alors c'est du drame, c'est de la comédie, c'est israélien, puisque Amos Gitaï est un réalisateur, scénariste, producteur israélien. Il a 70 ans, 41 ans de carrière, 57 tournages, 35 nominations. Alors, on lui doit, lui, en 2017, À l'ouest du Jourdain. C'était un très beau documentaire. Et dans le documentaire, d'ailleurs, il y a Bill Clinton. Bill Clinton qui est là, qui discute dans ce film. Il a été quand même nommé 4 fois la quinzaine des réalisateurs en 2017, son documentaire. Alors, le Jourdain, on rappelle que c'est un fleuve du Moyen-Orient, Oran, mais non, c'est le Moyen-Orient. Mais oui. Donc voilà, là, on est donc dans ce drame comédie. Ça se passe une nuit dans la zone portuaire qui longe la voie ferrée à Haïfa, qui est une ville du nord d'Israël. C'est là, entre le mont Carmel et la Méditerranée, qu'est installé le club. Le club, c'est un lieu qui attire chaque soir tout ce que Haïfa et sa région comptent de noctambules. Dans cette région contaminée par la haine et la violence, le club est un refuge pour tous ceux qui n'ont pas envie de se laisser enfermer dans des catégories toutes faites, qu'ils soient hommes ou femmes, homo ou hétéro, juifs ou arabes, palestiniens ou israéliens. À travers un moment de la vie de 5 femmes, c'est tout un microcosme, hein,
oui,
c'était le contraire, hein, parce que microcosme, non, mais bon, ça peut, mais c'est pas ça, c'est microcosme. Oui, c'est quand tu le prononces que tu t'en aperçois, en fait. Hein. C'est donc un microcosme humain qui se déploie, multicolore, intense et contrasté, entre rencontres et ruptures amoureuses, affirmation et hésitation, engagement et indifférence, vérité et mensonge. Ouah! Oui, ça dure 1h39. C'est quand même... c'est un film, enfin, moi, qui me semble intéressant. Intéressant de découvrir aussi Haïfa et tout ce qui peut se passer là-bas. On ne connaît pas. C'est intéressant, au moins, de ce point de vue. Alors, les 5 femmes, les actrices qui jouent, les 5 femmes, on a Maria Zrek, on a Kaola Ibrahim, on a Beira Ablassi et on a Anna Laszlo, Nahama Price. Et dans les hommes, on a Tsai Alevi, on a Makram Khoury, Tom Baum. Alors là, il y en a au moins 3 ou 4 qui sont très connus là-bas comme acteurs, hein, dans les femmes. J'ai vérifié ça. Pour les hommes, je ne sais pas, mais pour les femmes, elles sont connues quand même. Connu et reconnu, comme on dit. Alors voilà, c'est un... En fait, le réalisateur Amos Gitaï l'a étalé un soir dans ce fameux club-là, au centre de Laila et Naïfa, avec une des actrices palestiniennes de son film précédent. Ça s'appelait, qui s'appelait Un tramway à Jérusalem, qui est sorti en 2018. En fait, elle voulait, cette actrice-là voulait lui donner, lui montrer la vie nocturne de la ville israélienne d'Haïfa. Alors il nous dit, ben, nous avons vu tous les clubs les plus chauds de Haïfa. J'ai trouvé dans ce club, Fatous, un mélange de juifs et d'arabes, d'israéliens, de palestiniens, d'hétéros et de gays. C'est une sorte de refuge où se retrouvent des gens d'origine différente. C'est assez inhabituel dans un pays où, d'habitude, à lire les journaux, nous n'entendons parler que d'hostilité, de conflits, de guerre et de tuerie. Cette nuit dans ce club m'a donné le sentiment d'échange humain entre des gens qui sont simplement en relation les uns avec les autres de manière non violente, même s'ils ne sont pas toujours d'accord. J'ai adoré cette soirée, nous dit-il, et je me suis dit, je vais écrire une histoire sur ce microcosme. Et voilà comment est né le film Laila et Naïfa. Là, c'est donc un... En fait, le propriétaire palestinien du club, Fatous, hein, il s'appelle le club, a créé cet endroit comme un acte de résistance contre la précédente ministre de la Culture, qui s'appelait Miri Regev, et qui a fermé le seul théâtre arabe de Haïfa. Il a décidé donc d'en faire un lieu de rencontre et un refuge pour tous les habitants de Haïfa, quelle que soit leur origine. C'est pas mal, c'était courageux ça quand même, c'était pas mal, c'était quand même, hein. Alors Amos Gitaï nous explique pourquoi il a choisi 5 figures de femmes pour les rôles principaux du film. Alors il nous dit que le Moyen-Orient est dominé par les hommes qui, bien souvent, encouragent la guerre et les conflits. Alors voilà, il a donc choisi de privilégier les rôles féminins, voilà, parce que c'était en fait le fait de mettre un rôle féminin au centre de ce film est en soi une question posée sur l'organisation de nos sociétés. Et oui. Alors il parle, lui, dans son film, il parle de femmes et d'hommes à la recherche de leur autonomie. C'est ça, hein, au-delà des définitions de classe, de genre, de religion ou d'identité nationale. Alors d'habitude, Amos Gitaï, le réalisateur, a pour normalement, il invite ses acteurs à participer au processus de recherche de la signification du film. Voilà, il leur demande en fait de s'appuyer sur leur propre biographie, sur leurs réflexions personnelles. Alors bon, il a commencé à discuter avec eux, les actrices palestiniennes, là, il y a trois, quatre actrices palestiniennes. Et j'ai compris, nous dit-il, qu'elles voulaient aussi parler de ce qu'elles ressentent en tant que femmes dans leur propre société. Voilà, c'est pour ça qu'il est quand même intéressant ce film, justement. Alors, il a été tourné en 3 langues, le film, l'hébreu, l'arabe et l'anglais. Parfois, l'anglais est utilisé comme un terrain neutre, c'est ce qu'il nous dit, hein, le réalisateur. Extérieur, un terrain extérieur, voilà, où les gens peuvent communiquer sans endosser telle ou telle appartenance culturelle. J'avais constamment ce genre de considération en tête quand j'ai fait le film. Eh oui, dans ce... tu parles anglais, donc on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas d'où tu viens, qui tu es exactement. C'est pas mal, c'est assez sage. Le film raconte une histoire de rencontre qui se déroule au cours d'une nuit dans ce fameux club, qui est aussi l'un des derniers endroits où Israéliens et Palestiniens entretiennent encore des relations directes face à face. Pas mal quand même. Ben, le directeur de la boîte, là, celui qui l'a ouverte, a fait une chose assez importante et pas mal. Hein. 1h39, je ne sais pas si je l'avais dit. Ouais.
Donc voilà pour le film d'Amos Gitaï. Et maintenant, ça va être un film de Destin Daniel Cretton qui s'appelle Shang-Chi et la légende des 10 anneaux.
Ah là, ça bouge, hein. Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, c'est de l'action, c'est du fantastique, c'est américain. Ça dure 2h12, you. Alors, oui, tu as dit Destin Daniel Cretton, réalisateur, scénariste, producteur délégué américain. Il a 42 ans, 8 ans de carrière et 9 tournages à son actif. Il est né à Hawaï, ce réalisateur. dans l'archipel du Pacifique central. Hein. Cet archipel, d'ailleurs, qui a été découverte par le capitaine James Cook, c'était en 1778. Il y a eu beaucoup de films sur James Cook, justement, ce grand aventurier. Ben voilà, il est né là, Destin Daniel Cretton. Alors, il a déjà eu, enfin, en 2013, il avait eu un prix, 9 nominations, pour Stage of Grace, qui était avec une mention spéciale du jury au Festival du film de Locarno, avec Brie Larson et Rami Malek. C'est l'histoire d'un foyer pour ados, en fait, qui est paisible, hein, jusqu'à l'arrivée d'une jeune fille tourmentée. C'était ça. Très beau film, si vous ne l'avez jamais vu. Il se trouve pas cher du tout en DVD. States of Grace, ça s'appelle. Enfin, très beau film. Et donc là, alors on revient à notre Shang-Chi. Shang-Chi, il va devoir affronter un passé qu'il pensait avoir laissé derrière lui lorsqu'il est pris dans la toile de la mystérieuse organisation des 10 anneaux. Oula! Alors, c'est Marvel Studios, hein, bien sûr, of course, hein, à qui on doit ce film. Alors, on a, dans le rôle de Shang-Chi, on a Simu Liu, qui est un acteur canadien et chinois. Pas mal dans ce rôle, justement, pas mal du tout. On a aussi, on a Hong Wafina, qui est une actrice américaine. On a Tony Leung Chiu Wai, qui est un acteur hongkongais. Et puis, on a une actrice malaisienne également, Michelle Yeo. C'est pareil, là, on fait un petit tour du monde, là, on va un petit peu partout avec eux. Et tu ne peux pas échapper à celui que tu es, lui dit son père, par exemple. Son père qui n'est pas quelqu'un d'extraordinaire, on l'apprend par la suite qu'effectivement, le père est quand même quelqu'un de très dangereux. Alors, c'est l'histoire d'un jeune homme qui réalise que son père, justement, est l'un des plus grands criminels du monde. C'est quand même ouf. Il va devoir apprendre à vivre avec cette réalité et à y faire face pour la dépasser. Ça veut dire avoir la force de se libérer de l'héritage de son père pour vivre sa propre vie. Oui, mais quand un père est à ce niveau-là, c'est-à-dire vraiment un type très dangereux, c'est quand même moins facile de s'en libérer que si c'était un monsieur tout à fait paisible et intelligent et paisible. Quand même, effectivement, la difficulté est tout autre. Alors, le personnage de Shang-Chi, c'est un maître des arts martiaux. Hein. Il est capable de se dupliquer à l'infini. Et ce personnage est apparu la première fois en 1973, lors de la sortie du film La Main de Fer, qui a été un vrai carton au cinéma d'ailleurs. Hein. La main de fer, et qui a lancé la vague des films de kung-fu. Hein. Alors, les dessinateurs qui l'ont créé, c'est deux Américains qui ont 71 ans aujourd'hui, c'est Al Milgrom et Jim Starlin. Et puis, il y avait le scénariste aussi américain de 74 ans, qui est dans le coup aussi, Steve Englehart. Ce sont ces trois personnes qui ont créé ces personnages de kung-fu. Pas n'importe quoi, quand même. Alors, Shang-Chi, c'est la légende et la légende des 10 anneaux, est le 25e film de l'univers cinématographique Marvel, qui avait été entamé en 2008 avec Iron Man, qu'on connaît quand même, hein, on l'a beaucoup vu, puis il est repassé souvent à la télévision, on l'a forcément. Mes chéris, vous avez dû forcément le voir au moins une fois, je pense. Le deuxième de la phase 4, C'était Black Widow, qui est sorti en juillet 2021. Eh ben oui, on en a parlé justement, ici à l'antenne de Radio Entre-deux-Mers, avec Scarlett Johansson. On a parlé de ce film, Black Widow. Eh oui, qui est un film d'action quand même très très bien fait, en fait. Hein. Si on aime, c'est bon. Mais apparemment, ça cartonne quand même pas mal, donc ça veut dire que beaucoup de gens aiment ce cinéma-là. Le super-héros Shang-Chi est incarné par ce Canadien-là, justement, Simu Liu, qui est quand même un vrai adepte des arts martiaux, évidemment. Hein, c'est un acteur en même temps, c'est un vrai héros. Voilà, donc, Chang-Chi là, devait sortir en février 2021. Puis bon, en raison de la pandémie, on connaît, Disney l'a repoussé au mois de mai, juillet et puis septembre. Enfin, il nous arrive. Voilà, pour les amateurs, on est contents. Il est enfin là. C'est quand même... Bon, ça va faire plaisir à pas mal de gens. Peut-être beaucoup d'adolescents et puis peut-être des adultes qui sont assez jeunes dans leur tête. C'est bien ça. Et qui vont peut-être aller se régaler. Voilà. Ah, au fait, c'est quand même Shang-Chi, là, et la Légende des Dix Anneaux. C'est le premier film Marvel qui a un héros d'origine asiatique. Première fois. Quand on regarde tout ce qu'ils ont fait, effectivement, le héros n'a jamais été un asiatique. C'est vrai. Ah, quand même.
Et bien voilà, ça, c'est fait.
Ça, c'est fait. 2h12, je l'avais dit, je crois. Oui, ça, c'est fait.
Et maintenant, ça va être un film d'Andrei Konchalovsky que nous retrouvons, qui s'appelle oui. Chers camarades.
Oui, Chers camarades. Oui, tu as raison. Ça, tu me rappelles les moutons pécentes dans le... C'était... Alors, Chers camarades, oui, c'est un drame historique russe. Bah, t'as donné le nom du réalisateur, qui est effectivement réalisateur, scénariste, producteur russe. Il a 84 ans, Andrei Konchalovsky. 55 ans de carrière, 33 tournages, 3 prix et 34 nominations, dont un prix et une nomination pour Chers camarades à la Mostra de Venise 2020. Prix spécial du jury, c'est un joli prix ça. C'est quoi, Chers camarades ? Une ville de province dans le sud de l'URSS en 1962. Lyudmila est une fonctionnaire farouchement dévouée au Parti communiste. Ouais, sa fille décide de participer à la grève d'une usine locale. Et les événements prennent une tournure tragique. Les autorités dissimulent la violence de la répression. Lyudmila se lance alors dans une quête éperdue à la recherche de sa fille disparue. Alors Lyudmila, c'est Yulia Vysotskaya, l'actrice. Après, on a Yuliva, eh oui, elles ont le même prénom, Burova. On a Vladislav Komarov, Andrei Gusev dans les rôles principaux. Et il y en a, ils sont connus chez eux. Nous, on ne les connaît pas, mais ça vaut la peine justement de faire leur connaissance. Précisément, le cinéma, ça sert à ça aussi, à connaître des gens qu'on n'a jamais vus ou qu'on a très peu vus et voir un peu ce qu'ils peuvent faire. Donc, le réalisateur, en fait, ce qu'il voulait avec ce film, c'est reproduire scrupuleusement et dans les moindres détails, c'est ça, l'époque de l'URSS dans les années 60. Il nous dit qu'il pense que les soviétiques de l'après-guerre, ceux qui ont combattu pendant la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la victoire, méritent d'avoir un film qui rende hommage à leur pureté et à la dissonance tragique qui a suivi la prise de conscience de la différence entre les idéaux communistes et la réalité qui les entourait. Et oui, l'héroïne, elle est ambivalente. Elle. C'est une héroïne qui se déclare résolument stalinienne. Lyudmila. Il s'agissait donc pour le réalisateur de montrer l'ambivalence de la vie. Comme il nous dit, en art, c'est complexe finalement, car le spectateur attend souvent qu'on lui dise qui est bon et qui est mauvais. Moi, je souhaite que le spectateur décide et opère un choix moral. Ce film n'est pas un réquisitoire anti-stalinien ou anti-soviétique, mais c'est une œuvre qui refuse de pointer du doigt ce qui est bon ou mauvais. Là, ça y est, là, on a compris, c'est clair pour lui. Hein. Alors, le Chers camarades est filmé en noir et blanc, pour le réel. Hein. Voilà, parce qu'il nous dit que filmer en couleur était impensable, parce qu'il est stupide, dit-il, de voir la révolution en couleur. Hein ? C'est son opinion. Eh oui, pourquoi pas, tous les documents photographiques étaient en noir et blanc dans les années 60. Ben oui. C'est ce qu'il nous dit. La plupart des films de cette période étaient également en noir et blanc. Alors, les producteurs voulaient qu'il tourne en couleur afin d'attirer un public plus large. Mais lui, il leur a dit, l'art peut offrir du divertissement, éduquer, être la source de connaissances. Mais moi, j'essaie d'élaborer mes réflexions sans procurer nécessairement du divertissement. Je cherche à faire entrer le spectateur dans un flux d'émotions. En fait, le film est basé hein, sur le véritable massacre de Novocherkassk qui s'est passé les 1er et 2 juin 1962 et qui a été gardé secret jusque dans les années 90. La première enquête officielle n'a été ouverte que 30 ans plus tard, en 1992. Le général de division de la justice, Yuri Bagrayev, qui a participé à l'enquête, a joué le rôle de consultant dans le processus d'écriture du scénario du film. C'était pas mal de prendre quelqu'un qui connaissait bien cette histoire, justement. Un consultant comme ça, oui. Voilà. En fait, il voulait, le réalisateur voulait éviter aussi d'engager des acteurs connus. Bon, voilà. Alors, le casting a été effectué de deux manières. La première a suivi la voie traditionnelle. On a auditionné voilà, des acteurs de théâtre russe, pas trop connus du grand public. Et puis, la seconde a adopté la méthode du casting de rue. Et pendant quelques mois, on a cherché des talents non formés parmi les travailleurs de l'usine d'électromoteurs du Novocherkassk et les résidents locaux des régions de Novocherkassk, Rostov et Adygea. Donc, ils ont fait un boulot très sérieux de casting, en fait, hein, pour ce film qui en valait la peine, je pense. 2 heures, ce drame historique.
Cher camarade, donc.
Cher camarade.
Et maintenant, tu voulais évoquer le film de Franck Llopis qui s'appelle Nos Liens.
Oui, Nos Liens, c'est un drame, un thriller français. Franck Llopis, c'est un réalisateur, scénariste, acteur. Il est producteur, il est français, il a 52 ans. 18 ans de carrière, 31 tournages à son actif. Oui, voilà. Il est directeur également et professeur de cinéma à l'école d'acteurs. Côté cours, cette école est connue par les gens qui veulent faire ce métier et suivre des études. Côté cours, il est directeur depuis 2017, mais il était professeur depuis 2013 dans cette école. Voilà. Alors lui, on lui doit L'étranger en 2010, en 2006 c'était Paris Nord-Sud. Et Fracassé aussi en 2006 avec Vincent Desanières, qui avait pas mal marché. Voilà. C'est l'histoire d'un homme qui se réveille dans la douche d'une petite salle de bain, Nos Liens, hein, le film Nos Liens. Il est blessé, les mains et les pieds attachés. Il ne sait pas pourquoi il est là. 2 jeunes femmes pénètrent dans la salle de bain. Elles ont l'air déterminées. On a Chantal Baron, Alexia Tsanklu, Roland Chao et Franck Llopis, le réalisateur qui joue le rôle justement du pauvre gars qui est dans la douche. Nos Liens. Ouais. Et puis...
Et puis, maintenant, c'est un film de James Wan.
C'est ça que tu voulais.
Un Malignant.
Alors, tu t'y mets aussi.
Alors, moi, parce que... je ne me mets rien du tout. C'est la liste que tu m'as donnée.
Non, mais je pense à... Comme c'est un film d'épouvante, d'horreur. C'est un thriller américain. J'ai dit, mince. Ah, ben voilà, ben Damien va s'y mettre aussi. Mais attention, c'est du bon cinéma. Hein, d'épouvante, thriller. James Wan, bah oui, James Wan, lui, c'est un australo-malaisien-chinois. Ah, il a 3 nationalités, réalisateur, scénariste, auteur, producteur. Il a 44 ans. C'est le maître de l'horreur, dit-on. C'est pas moi qui le dis. Ça, je l'ai lu sur lui, le maître de l'horreur. Il a 20 ans de carrière, 58 tournages à son actif, 2 prix et 12 nominations en 2005 pour son film Saw, qui était aussi... un film d'épouvante, évidemment, avec Danny Glover dans le rôle principal. Oh, Danny Glover, on le connaît, il était dans L'Arme fatale avec Mel Gibson. C'est lui, là, l'autre, là, à qui il arrive des trucs terribles, qui est assis dans sa salle de bain, dans les toilettes, et qui ne peut pas bouger parce qu'il y a une bombe dessous. Voilà, ça, c'est dans L'Arme fatale. Ben, c'était lui, Danny Glover, dans Saw, le film d'horreur. Et puis, pour, en 2011, c'était Insidious, qui a été très nominé aussi, avec Rose Byrne dans le rôle principal. Donc là, c'est de l'épouvante d'horreur thriller américain. Ça dure presque 2 heures. C'est interdit au moins de 12 ans, comme d'habitude, dans tous ces films. La vie de Madison Mitchell est perturbée lorsque de terribles visions viennent la hanter. Quelle est cette créature malveillante qui la poursuit et qui commet ces meurtres atroces? On a Annabelle Wallis dans les rôles principaux, Maddie Hasson, George Young, McKenna Grace, Jack Abel. Alors il y a un peu de, c'est pareil là, il y a un peu de tout. Il y a des acteurs britanniques, des acteurs américains, une actrice roumaine, Ingrid Bizou, qui est l'épouse dans la vie de James Wan, le réalisateur. Voilà, ça c'était pour la petite histoire. Et elle est également d'ailleurs pour le film Malignant, elle est également scénariste et productrice. Alors, le film devait sortir le 14 août 2021. Et puis, le voilà qui arrive quand même. Pour les amateurs.
Et on va terminer avec un documentaire dont tu voulais nous parler, documentaire de Claire Simon, qui s'appelle « Le fils de l'épicière, le maire, le village et le monde ».
Sacré titre hein, quand même. Oui, documentaire français. Claire Simon, on la connaît. Elle fait de merveilleux documentaires, Claire Simon, franchement. Hein. Réalisatrice, scénariste, directrice de la photographie, elle est française, elle a 66 ans. Elle a 44 ans de carrière, 29 tournages à son actif. 2 prix, 17 nominations déjà. En 2016, pour son documentaire Le Concours, ça s'appelait Le Concours, mais c'était un documentaire sur la Fémise, bien sûr. Le fameux concours à l'entrée de la Fémise, pour les gens qui veulent entrer dans le cinéma. Donc elle a eu ce prix Venitia, classique, du meilleur documentaire en 2016 avec Le Concours. Et oui, alors la Fémise, hein, ça s'appelait la Fondation européenne des métiers de l'image et du son. Alors aujourd'hui, on l'appelle l'École nationale supérieure des métiers de l'image et du son. Et en 1973, en fait, ça va rappeler quelques souvenirs, ça s'appelait l'IDEC. La fameuse école IDEC dont on a beaucoup, beaucoup parlé, l'Institut des hautes études cinématographiques. Alors, et maintenant, c'est la Fémise. Il y a un concours. Évidemment, il y a 1000 candidats là, hein, pour ce concours. C'est quelque chose d'incroyable, quoi. Ah oui, on lui doit, au fait, en 2008, les Bureaux de Dieu, avec Nathalie Baye et Michel Boujna. La question, c'était comment la liberté sexuelle est possible. C'était ça, les Bureaux de Dieu, qui avaient eu un prix aussi, SACT. À la quinzaine des réalisateurs en 2008. Et en 2013, on lui doit Gare du Nord avec Nicole Garcia et Reda Kateb. Elle travaille beaucoup, cette réalisatrice. Voilà. Elle a été bouleversée, en fait, par ce projet de monter une télévision à Lussas. C'est ça l'histoire, hein. Un village de combien ? Ils sont 1100 habitants. Ouais. Oui, c'est un. Parce que c'est quoi cette histoire ? C'est l'hiver dans le petit village de Lussas. Ça se trouve en Ardèche. Belle région quand même. Hein. Et les agriculteurs sont tout entiers à la taille des vignes. Soutenus par le maire Jean-Paul, son ancien camarade de classe, Jean-Marie Barbe, se lance dans une entreprise très singulière. La création d'une plateforme numérique par abonnement dédiée aux documentaires d'auteurs. C'est la naissance de Tank aux allures de start-up, tendance rurale. Aux côtés de Jean-Marie, l'équipe va-t-elle gagner le pari de cette entreprise économique ? Voilà pourquoi Claire Simon a été bouleversée, quoi. Imaginez ce projet de monter une télévision dans ce petit village. Eh oui, filmer un village pour elle, pour Claire Simon, ça constitue une aubaine de microcosme encore, déjà, ce mot qui revient. Eh bien oui, mais en même temps, c'est un château fort, difficile à conquérir, c'est ce qu'elle nous dit, hein, et à pénétrer profondément. Ouais. Pour satisfaire ma curiosité, dit-elle, mon passeport a été le scénario économique. Comment parvient-on à faire ce qu'on aime et à en vivre ? Qu'il s'agisse de fruits, de vin ou de cinéma, comment fait-on ? Ah, j'avais l'impression, tout au long de ces 4 ans de tournage, que les mêmes problèmes se posaient aux agriculteurs et aux diffuseurs, créateurs de documentaires. Et c'est cet intérêt qui m'a permis d'entamer le dialogue. Parce que sinon, chacun sait bien qu'un village se ferme vite aux questions et aux regards de l'étranger. On le trouve vite intrusif. Sauf si on parle de ce qui tient chacun debout du matin au soir. Est-ce qu'on en sort ? Point d'interrogation. Est-ce qu'on peut aujourd'hui gagner sa vie en faisant ce que l'on trouve beau et bien ? Point d'interrogation. Voilà. Ce film montre comment l'économie décide de tout, en fait, hein, et comment elle est la langue commune de ces deux activités qui semblent si différentes. Ah oui, comment la vie des uns et des autres se parle en chiffres. C'est ça.
Et avant de se quitter, on écoute la bande-annonce de la du fils de l'épicière, le maire, le village et le monde.
Dans les années 70, l'Ardèche s'était dit qu'elle n'avait pas besoin de Paris pour devenir le centre du monde du documentaire d'auteur. 40 ans après, l'USAS s'empare de l'Internet mondial et crée un site pour diffuser le meilleur du documentaire.
Comme disait Picasso, la forme est une vision du monde. Montrer des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir change le regard.
Alléluia ! Ça fonctionne.
Dans les deux ans qui viennent, on est exclusivement plateforme, 500 films par an à peu près. Après, le pari n'est pas gagné, il faut qu'il y ait des abonnés, quoi.
J'entends bien.
L'autre aboutissement, c'est la construction du bâtiment
pour le village documentaire de Lussas.
Et voir perdurer l'activité du documentaire de création dans notre village qui conserve son identité rurale.
Quand je vois ce qu'ils font là-bas, ça peut être que super, hein. On a toujours des gens qui râlent, mais ça, on ne pourra pas l'empêcher.
Ça faisait une quinzaine d'années que je n'étais pas venu, ça a bien changé.
Ça ne progresse pas. Si on ne vous donne pas de choses, vous arrêtez là.
Non.
Non. On est à la recherche, on va dire, de 60 000 euros.
Jean-Marie, bon, il a tendance à pousser la machine trop loin.
Dunk aujourd'hui est plus intéressant qu'il y a un an et demi, plus riche.
Toujours plus, mais c'est jamais assez.
Lussas, ça peut pas exister sans des gens qui vivent à Lussas. Et après Jean-Marie, il n'y a personne d'ici et qui fait le lien avec les gens du village.
La seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est notre avenir dépend aussi de vous.
Voilà, le fils de l'épicière, le maire, le village et le monde, et le film monde. De Claire Simon. Merci beaucoup Anne pour toutes ces sorties cinématographiques.
Mais oui, c'était un plaisir de retrouver nos auditeurs. J'espère qu'ils vont pouvoir faire un petit choix. Ils pourront réécouter quand même l'émission. Si...
Tout à fait, sur les podcasts www.re2m.com.
Voilà, Radio Entre deux Mers a tout prévu, bien sûr. Pour vous, mes chéris, on a tout prévu. Bon, ben Damien, écoute, je te dis à bientôt.
À bientôt, à la semaine prochaine, mercredi 11h.
Porte-toi bien et vous aussi, mes chéris, portez-vous bien. Passez une bonne semaine, profitez du soleil encore tant qu'il est là. Même si le travail est... Si vous avez repris le travail, vous pouvez quand même profiter du soleil en fin d'après-midi. En tout cas, nous, on pense bien à vous. Et puis n'oubliez pas que je vous aime. Bisous, bisous.
Silence.
Aux yeux, tu sais.